Bonsoir.
Tout d'abord, un petit appel au chat. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que tout le monde nous entend bien? Est-ce que vous êtes prêts à nous subir ce soir?
Eh oui,
Déjà,
ce soir, nous sommes cinq.
Ouais. Très bien. Test
Très bien,
micro 1, 2,
parfait.
1, 2. Eh ben, très bien. Super, ça passe du premier coup. Donc, bonsoir à toutes et tous et bienvenue ce soir pour notre live du dimanche soir, ce soir sur un sujet, je dirais, relativement exotique. Relativement
Mais
exotique
important.
mais important dans la mesure où vous savez que vous soyez juste, vous connaissiez MO5 ou que vous traîniez sur les Discord de MO5, vous savez que souvent on a des débats sur le jeu occidental contre le jeu japonais, le jeu américain, le jeu français, c'est quoi la French Touch, etc. etc. Et ce soir, nous avons décidé de braquer nos caméras, de braquer les spotlights sur un pays auquel on ne s'attendrait pas forcément pour parler de jeux vidéo, puisque ce soir, nous allons parler des jeux vidéo et du jeu vidéo en Suisse. Et plus précisément de la préservation et de l'histoire du jeu vidéo en Suisse, puisque nous recevons trois personnes qui vont très rapidement se présenter pour représenter l'association, qui est une association, on peut le dire, qui a un but relativement proche de ce qu'on fait chez MO5, mais vous aurez plus de précisions par la suite, une association qui s'appelle Pixelvetica, svga.ch. J'insiste sur le .ch puisque nous, en particulier Guillaume du Mag, est tout le temps en train de dire cmo5.com l'association. Donc svga.ch. Et donc je vais donner la parole à nos trois invités qui vont se présenter. Et je vais commencer par donner la parole à Aurore. Bonsoir Aurore, qui es-tu?
Alors, de base, je suis historienne du cinéma, donc pas tout à fait dans le jeu vidéo. Mais c'est Robin qui m'a convié en fait à travailler un peu sur ce sujet. Et puis ça m'a tout de suite intéressé le côté en fait préservation et comment dire moment de légitimation. En fait, j'ai toujours trouvé très très intéressant dans le tout ce qui est la légitimation du cinéma, le moment où les cinémathèques se sont constituées, où on a commencé à prendre conscience de l'importance déjà économique, mais aussi culturelle en fait, du médium. Et je trouve qu'on est vraiment dans ce moment-là en fait, au niveau du jeu vidéo, donc sans être vraiment une grosse gameuse, parce que je joue à deux jeux à peu près. Je trouve vraiment très... Ouais, mais oui. Mais je trouve vraiment important de se questionner sur ce patrimoine et de le définir comme patrimoine, en fait, parce que beaucoup de gens ne le voient pas encore comme patrimoine, et c'en est un. Donc voilà, on a travaillé ensemble. Alors, Joël s'est joint après Pixelvetica, il s'est joint à nous pour SVGA, donc la Swiss Video Game Archivist en Suisse, parce que voilà, on a vu avec Pixelvetica qui manquait un peu, disons, de, comment dire. Beaucoup de gens s'intéressent à la question de la préservation, mais il n'y a pas une entité qui regroupe un peu, une plateforme qui regroupe un peu ces questions. Donc voilà. Donc j'ai déjà un peu beaucoup parlé, je vous laisse vous présenter.
Deux petites questions avant de passer à nos invités suivants, Omar. Si tu disais, il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent, mais pas forcément de plateforme pour centraliser, d'un point de vue technique ou juste d'un point de vue, je dirais, intérêt porté à la chose?
Mais déjà d'un point de vue institutionnel, parce qu'en fait, on a vu avec Pixelvetica que finalement, plusieurs institutions, et même des institutions qui ne nous ont pas répondu, mais dont on sait très bien qu'elles ont du jeu vidéo, en fait, s'intéressent à ce patrimoine, mais ne savent pas très bien comment le conserver encore. Il y a des archivistes numériques, donc ce n'est pas forcément les compétences qui manquent, mais c'est les compétences spécifiques, des fois, qui manquent. Et puis, c'est aussi le temps et l'argent, parce que généralement, c'est la mission de personne. Chaque fois, les institutions ont une mission autre, et puis c'est un peu le parent pauvre, genre oui, on a du jeu vidéo, mais on fera ça un jour, quoi.
D'accord. Alors, on reviendra,
Voilà.
je pense, beaucoup plus, un peu plus tard et plus en détail sur la question donc, du moment de légitimation. C'est un gros sujet. Et puis, avec encore dernièrement des attaques d'une débilité infinie contre le jeu vidéo qui ont été faites en France, je pense qu'il est encore, quand même, encore le moment d'en parler. Merci beaucoup, Joël. Qui es-tu, Joël?
Alors, déjà, bonsoir à toutes et tous. Je m'appelle Joël Rima. Actuellement, je suis étudiant à l'Université de Lausanne. Je suis en train de réaliser un master en humanité numérique. C'est-à-dire que c'est une sorte de mélange entre les humanités et les sciences computationnelles, soit un regard d'humanité sur les sciences computationnelles ou l'inverse, donc l'utilisation d'outils des sciences computationnelles pour travailler sur les humanités. Je me spécialise à côté de ça en histoire. Évidemment, j'ai toujours un intérêt pour ce qui est préservation du patrimoine, discussion autour des événements historiques, retracer, recréer, ressortir des choses qui ont été parfois oubliées. Et j'ai toujours eu un monstre intérêt pour le jeu vidéo. J'ai participé à plein d'assauts dans le domaine du jeu vidéo en Suisse romande, notamment une association qui s'appelait Pixel, que malheureusement n'existe plus, mais dont j'ai été le président et avec laquelle on a participé à tout plein de trucs. On était parmi les associations qui organisaient, enfin co-organisaient la Geneva Gaming Convention, qui a eu deux éditions avant de ne pas être conduite. Et puis, à côté de ça, je développe aussi des jeux vidéo. J'en ai deux qui ont été auto-publiés et sont disponibles gratuitement sur itch.io, notamment un sur l'histoire politique suisse. Voilà, c'est un peu mon côté historien qui ressort. Et puis un autre qui est un peu une aventure textuelle, un peu inspirée des jeux old school, et puis qui parle notamment du deuil. Voilà, donc j'ai un peu un point de vue développeur, un point de vue vraiment fan, qui adore jouer à plein de jeux vidéo, qui s'investit dans la vie associative à gauche à droite. Et puis j'ai aussi un point de vue d'historien qui peut amener voilà, des outils de recherche, de tri, d'archivage, etc.
Oui, c'est hyper intéressant. Tu peux nous donner les noms de tes deux jeux, que les gens puissent les rechercher.
Alors, ouais, alors le jeu sur l'histoire politique suisse s'appelle Vote Now. Il est disponible gratuitement sur itch.io, comme je disais, et puis il a gagné un prix. Il a gagné le prix de la Swiss Video Game Association, le prix junior.
Plus
Mais du coup, il a quand même un Game Award. L'autre jeu, il s'appelle That House. Il y a aussi une version française que j'avais complètement refaite parce qu'on avait une présentation de nos jeux vidéo à l'université de Lausanne, plutôt pour des enfants. Et du coup, vu que le jeu de base était en anglais, je me disais que c'était pas terrible. Donc j'ai refait tout le jeu en français. Le jeu en français s'appelle Ma Maison, simplement.
D'accord. Et quand tu parles de jeux vidéo, enfin de jeux textuels à l'ancienne, c'est plutôt type Zork ou plutôt type le nécromancien de Ubisoft?
Plutôt type Zork, je dirais. J'avoue que c'est plus dans l'idée. Moi, j'ai pas beaucoup joué à ce genre de jeu-là, mais tu sais, vraiment, genre écran large juste avec du texte. Tu tapes tes commandes, regarder tel et tel élément, interagir avec ça, etc.
Avec un
etc.
barceur.
Vraiment Zork. Et enfin, Robin. Qui es-tu, Robin?
Bonjour à tous, merci Pipo, merci Seb pour l'invitation, merci MO5 pour l'invitation évidemment, hein, les grands frères invitent les petits frères ou les grandes sœurs invitent les petites sœurs, donc ça on est évidemment content d'être chez vous ce soir. En plus, alors Aurore et Joël ont oublié de le dire, mais ils sont 100% suisses, moi je suis une pièce rapportée, je suis issu de l'immigration, donc moi je suis. Mais bon, je commence à essayer de m'intégrer. La preuve, c'est que j'essaye de protéger le patrimoine suisse. Donc, c'est bien que je m'investis. Moi, de formation, je suis plutôt dans l'informatique. Je suis arrivé en Suisse pour commencer ma carrière en sécurité informatique. Et puis, au début de la pandémie, grâce en particulier à mon engagement en fait associatif sur voilà la préservation du patrimoine informatique et vidéoludique, j'ai eu la chance de pouvoir obtenir une place d'archiviste numérique à la Cinémathèque suisse, donc ce qui est une institution évidemment qui préserve l'histoire et tout ce qui tourne autour du cinéma en Suisse, qui est aussi où le site principal est aussi à côté de Lausanne. Mais il y a aussi des défis hein, informatiques qui sont un petit peu différents que celui de la préservation du jeu vidéo, mais on a quand même des supports de données anciens parfois, plus ou moins exotiques à préserver. Et donc voilà, ça permet pendant la journée maintenant de faire un peu plus de choses que je faisais avant, plutôt le soir et le week-end. Et puis, bah voilà, on s'est réunis ensemble en équipe, on en parlera un peu plus en détail pour faire un premier grand projet qui s'appelait Pixel Vetica. Et puis suite au projet Pixel Vetica et à ses recommandations, on a lancé l'association SVGA. Donc, moi, je suis secrétaire de l'association, Aurore est vice-secrétaire et Jérôme est vice-président, pardon. Donc ça fait... Joël est vice-président de l'association qui est toute jeune. Donc on est d'autant plus heureux de pouvoir en parler alors qu'on est encore dans les premiers mois d'existence.
Vous êtes encore dans les couches. Alors justement, est-ce que tu peux essayer de nous préciser un peu cette articulation? Parce que tu vois, il y a eu pas mal de choses qui ont été racontées. Donc la Swiss Game Archivist, Pixel Vetica, svga.ch. Comment toutes ces galaxies s'articulent-elles en fait?
Donc c'est vrai que c'est pas forcément très très simple. En fait, en fin 2020, il y a l'association Memoriaf, qui est une association en fait qui reçoit de l'argent au niveau fédéral en Suisse. Qui s'intéressent en fait à la préservation du patrimoine audiovisuel de manière générale. Donc, ils ont des financements assez importants et ensuite, eux, redistribuent des financements vers des institutions comme la Cinémathèque Suisse, par exemple, mais aussi vers des institutions de taille plus petite sur des projets très spécifiques. Par exemple, ça peut être une télévision locale qui veut décider de faire un projet de préservation. Et donc, ils vont financer ce genre de choses. Et aujourd'hui, Memoriav jusqu'à 2020, en fait, n'avait jamais abordé le jeu vidéo. Et la première étape pour eux, ce qui est relativement légitime, c'est de dire, ben voilà, on ne sait pas dans quelle direction il faut aller, on ne sait pas ce qui se fait dans les autres pays, est-ce que les choses qui se font dans les autres pays sont efficaces, etc. Et donc, Memoriav a dit, voilà, on va monter une équipe de personnes qui ont de l'expérience ou qui s'y intéressent ou qui sont capables, en fait, d'aller chercher l'information pour faire un état des lieux. Et donc, cet état des lieux, ce premier projet, s'appelait Pixel Vetica. L'objectif, évidemment, le mot valise entre Pixel et Helvetica, c'était de se faire cet état des lieux. Donc, l'état des lieux a été fait à travers plusieurs choses, un sondage, des entretiens. Et donc, ce projet a abouti en fait courant 2022. Donc, été 2022, l'équipe de projet a rendu son rapport. Après, il y a toute une phase un petit peu de lecture, de consultation. Et puis, le rapport a été publié fin 2022 en français. Donc, ça, c'était ce qui est relativement rare, on va dire, pour ce genre d'ampleur de ce type de projet. Donc, on a une huitantaine de pages, dont 80 pour les monocultures françaises, 80 pages, on va dire, de rapports qui sont le cœur du rapport. Et puis ensuite, on a 120 pages, donc qui sont des belles annexes qui contiennent évidemment l'ensemble des entretiens, l'ensemble des données du sondage. Donc ce rapport, c'est un petit peu l'acte fondateur aussi, ce qui a un peu permis en fait de démarrer l'initiative. Donc le rapport, il avait une durée, il avait un cadre très défini. Et puis, une très grande partie de l'équipe, en fait, s'est dit, on ne peut pas s'arrêter là. Finalement, c'est que le début. Et donc, on a créé cette association SVGA, donc Swiss Video Game Archivist, pour continuer ce travail et puis pour continuer aussi à essayer d'agglomérer un peu les gens qui sont intéressés par ça, comme le disait Aurore. Il y a beaucoup de gens qui, individuellement, au sein de certaines institutions, se retrouvent face à ce type d'objet de manière plus ou moins volontaire, de manière plus ou moins... capable, on va dire. Et donc ces gens-là, ce qui est ressorti en fait de notre travail, c'est qu'ils avaient énormément besoin d'aide et énormément besoin de se réunir en association. Donc c'est pour ça qu'on a créé cette association, et ce qui explique, on va dire, les différents noms, parce qu'on a voulu aussi marqué en fait la différence entre le projet Pixel Helvetica et la nouvelle initiative qui est vraiment quelque chose de nouveau et qui vient après cette première étape de, on va dire, d'état des lieux, qui est vraiment quelque chose. Alors il y a quelques parties qui sont concrètes, mais c'est vraiment des choses qui sont beaucoup dans la théorie, et du coup évidemment maintenant la mise en pratique est plus que bien.
Alors si je comprends bien, donc en fait c'est des espèces de d'étapes d'évolution de Pokémon, mais admettons que des gens qui suivent à ce stream veulent. Alors, est-ce qu'on peut adhérer? Est-ce que, comme chez MO5, il y a la possibilité d'adhérer, et à quoi est-ce qu'on adhère? À SVG1 ou à Pixel Helvetica?
Donc, Pixel Helvetica, c'est un projet qui est terminé, le rapport a été publié. Maintenant, Pixel Helvetica, entre guillemets, c'est une. Un nom de projet. Donc après, est-ce que le nom de projet va revenir? On ne sait jamais. Est-ce qu'il y aura un Pixel Helvetica 2, un peu comme les plans de certains ministres en France. Hein, il y a des fois des lois, et puis il y a la loi 2 et le deuxième package. Mais si quelqu'un voulait rejoindre une association, l'association qui serait légalement enregistrée, c'est SVGA. Ouais. Après, c'est une association, voilà, qui s'oriente sur la qui a une certaine vision en fait de ce que, comment les choses doivent être faites, qui se concentre sur le jeu vidéo suisse. Et donc évidemment, à part si les gens s'intéressent particulièrement à la préservation du jeu vidéo suisse, après évidemment on peut travailler aussi sur les méthodologies. Les méthodologies sont universelles, c'est-à-dire que les défis que peuvent avoir MO5, les défis que peut avoir la Game Preservation Society au Japon, les défis que peuvent avoir HeatSave aux États-Unis, bah, il y a des défis qui sont communs. Évidemment, ça, c'est des choses où ça dépasse, on va dire, les spécificités nationales ou locales. Par contre, c'est vrai que on va pas forcément s'intéresser à obtenir toutes les copies de jeux d'une console pour pouvoir absolument les préserver, pour plusieurs raisons, parce que c'est pas la mission, parce que c'est déjà la mission d'autres institutions ou d'autres organisations, pas forcément des choses financées et étatiques. Et c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'on a essayé de se placer dans un vide, en fait, qui existe. Et ce vide, il existe en particulier dans ce domaine-là. Et c'est vrai qu'on n'a pas la velléité de venir reproduire ou ajouter, en fait, à du travail qui est déjà fait par d'autres institutions. Et ça, c'est quelque chose qui est assez normal, on va dire. La Cinémathèque suisse ne va pas chercher à faire le même travail que la Cinémathèque française ou que le CNC. Et puis le travail qui est fait par MO5, voilà, il y a beaucoup de grands projets qui sont en cours chez MO5. Déjà nous on n'aurait pas forcément les moyens de le faire, parce que il faut avoir accès peut-être à certains matériels, il faut avoir accès à certaines choses. Et puis MO5 se concentre aussi sur du patrimoine national, le Minitel, le Micral, ces grands projets qui sont des projets franco-français ou qui sont logiques qu'ils soient faits en France. Et réciproquement, en Suisse, il y a des choses qui aussi, et des fois, il faut peut-être chercher d'abord à aller trouver ces projets. Et en fait, c'est des fois peut-être un travail préparatoire de trouver ces projets qui sont des projets qui pourraient être complètement impossibles de réaliser en fait sans être en Suisse ou sans être en contact avec les gens qui sont ici. Et puis, ne pas reproduire en fait un travail qui est déjà fait et qui aurait une valeur ajoutée assez limitée, sachant qu'en plus, comme tout le monde, on a des ressources qui sont beaucoup plus limitées que la quantité de travail qui est face à nous. Mais ça, c'est l'ensemble des domaines de la préservation de la culture, et même les plus grandes institutions vous diront qu'ils ont les mêmes limites. Simplement, les limites sont beaucoup plus hautes.
Je vois très très bien. Alors, avant de rentrer plus en détail sur vos positions, je dirais personnel, et par rapport à ce qui a été fait donc dans le cadre, ce qui est à faire maintenant dans le cadre du SVGA. Seb, tu voulais nous faire un petit point sur l'histoire du jeu vidéo suisse.
Exactement. Donc, je me suis bien sûr aidé du rapport du mémoire que vous avez publié, c'est sur Pixel Helvetica, et j'en profite, puisque j'aime beaucoup ce livre, j'en profite pour dire que j'ai aussi utilisé Video Games Around the World, qui est un ouvrage assez épais, dont chaque chapitre est soit un historique, soit un état de l'art du jeu vidéo dans un pays différent. Et j'ai été vraiment super content de voir qu'il y avait un chapitre sur la Suisse. Donc, alors, je vois que l'heure tourne et que comme c'est pas non plus le centre du sujet de ce soir, je vais essayer de pas être trop long. Du
Alors,
coup,
juste avant que tu
vas-y.
commences, Seb, juste pour poser la question aux gens du chat, est-ce que vous connaissez un jeu suisse? Juste pour voir. Et je te laisse débuter ça, on va voir ce que les gens vont répondre.
Excellente question, Pipo, comme d'habitude. Donc, du coup, la Suisse a quand même, bien sûr, un marché qui est pluriculturel, polyglotte, et avec 5 pays frontaliers. Et donc, ça, ses contraintes et ses avantages. Et ce que vous avez, d'ailleurs, ce que vous avez dit dans votre mémoire, c'est que les premières traces de jeux vidéo suisses datent des années 70. Il y a notamment un jeu vidéo réalisé par le professeur Nicou à l'EPFL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, je crois, 1974, il me semble, parce qu'il faisait ça sur Smaky. Et si jamais, Georges, tu pouvais lancer la vidéo, ce serait top, mais je sais que c'est un peu difficile pour celle-ci, pour la télévision suisse romande. Et sur la vidéo, je ne sais pas si on va la voir, donc ça, c'est un autre. Si on a le. Bon, si jamais on le voit, mais bon, c'est pas très grave. C'est le professeur Nikou et un de ses étudiants, je crois, qui sont en train de montrer un jeu type Snake. En 1979. Et il y a aussi un jeu vidéo sur ordinateur Lilith du professeur Niklaus Wyrz à Zurich. Et sûrement d'autres, mais pour l'instant, on n'a pas encore trouvé de documents qui en attestent. Alors, une parenthèse dans cette parenthèse, qui est si quelqu'un, peut-être Robert, peut me dire 2 mots sur le Smaky, cet ordinateur créé par le professeur Nikou.
Oui, en effet. Alors c'est assez intéressant l'histoire parce que un peu comme l'histoire qu'il peut y avoir en France, hein, les universités avaient beaucoup de matériel, étaient un petit peu à la pointe, on va dire, de la recherche en informatique et que ce soit matériel ou logiciel. Et c'est vrai que Jean-Daniel Nicou était un chercheur qui s'intéressait énormément en fait à, ben, voilà, à la fabrication de nouvelles machines, d'ordinateur, on va dire, à l'usage quand même assez principalement pour l'enseignement, en fait, que ce soit pour
Tout à fait.
l'enseignement des étudiants, mais aussi pour l'enseignement potentiellement des plus jeunes. Et c'est toujours quelqu'un, et c'est quelqu'un qui est toujours vivant et qui est toujours très actif, peut-être même des fois plus actif que nous, hein. Alors, c'est quelqu'un qui a c'est vraiment une force de la nature et qui est très actif, en fait, dans tout ce qui est pédagogique. Et en fait, voilà, il a créé ces machines et il le disait lui-même. L'objectif de la machine et l'objectif de la programmation, bah forcément, faire programmer des jeux, même à des étudiants universitaires qui avaient déjà quelques années d'études, bah c'était un challenge qui était un challenge intéressant. Donc en fait, il s'est rendu compte en les faisant développer des jeux vidéo, il arrivait à les motiver. Et ensuite, bah forcément, il a eu du succès parce que ces machines ont commencé à être de plus en plus utilisées à la fois dans les universités, et puis ensuite c'est devenu vraiment une entreprise. Il a pu en faire un produit, et puis il a été aussi parmi les premiers. Le Smaky a été parmi les premiers à utiliser les souris, donc ça c'est un élément important. On va peut-être pas revenir trop dessus aujourd'hui, mais l'histoire de la souris a une grosse partie de son histoire qui passe par Lausanne et par l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. J'invite les gens à aller voir. En fait, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites là-dessus et qui sont très intéressantes et qui sont bien plus précises que ce que je pourrais dire. Et le Smaky est devenu une vraie machine que les gens pouvaient acheter. Ça a été distribué dans les écoles. Donc, on avait aussi notre petit plan informatique, hein, un peu comme il y avait pu avoir en France. Et donc, il y a eu plusieurs cantons, donc régions suisses, qui ont fait des choix d'acheter des ordinateurs Smaky pour l'école. Et donc, il y a toute une génération de Suisses qui ont entre 35 et 45 ans, qui ont eu en fait cet ordinateur-là, comme on a pu avoir des MO5 à l'école ou des TO5 en France. Et donc le Smaky est devenu vraiment une machine qui avait des outils de comptabilité, qui avait bah, des traitements de texte, etc., et qui avait toute une série de jeux. Et en fait, ces jeux ont été alors déjà dans les années 70, dans les années 70, et puis après dans les années 80, ont été des jeux très importants en fait dans l'histoire la conception de jeux en Suisse, parce que c'était avant l'arrivée, on va dire, des Atari et Amiga, qui étaient vraiment révolutionnaires sur tous les aspects, que ce soit en Suisse ou dans d'autres pays d'Europe. C'était les plateformes sur lesquelles on avait les jeux. Il y a très peu de choses, il y a très peu. Alors, il y a, comme vous l'avez dit, la Lilith et les Smacky. C'est un petit peu les premières traces, on va dire, de jeux sur micro-ordinateur. Et donc, c'est un peu. Il y a quelques machines qui sont un petit peu antérieures, sur lesquelles on ne reviendra pas, mais c'était pour les deux plateformes principales 100% suisses et qui ont pas forcément voyagé. Alors, heureusement, il y a certains jeux qui sont sortis. Les jeux qui sont sortis plus tard, ils sont sortis sur d'autres plateformes comme sur le PC. Mais c'est une machine emblématique et il y a évidemment plusieurs structures, plusieurs collectionneurs en Suisse qui essayent de faire préserver au mieux ces ressources-là. Jean-Daniel Nicou aussi fait pas mal de démarches lui-même. Et puis la société qui a été créée à l'époque et qui faisait les Smacky, alors malheureusement aujourd'hui, comme beaucoup de machines de l'époque, le Smacky ne se fait plus. Mais la société existe encore, ce qui n'est pas le cas de toutes les sociétés qui ont fait les machines de micro-ordinateurs. Et cette société-là, Epsitech, essaye aussi de continuer à faire perdurer son histoire à elle et évidemment une partie de l'histoire de l'informatique en Suisse romande et en Europe, finalement.
Parfait, oui, c'est exactement. Merci beaucoup, Robin. Je voulais quand même juste parler un peu de l'histoire du jeu vidéo en Suisse et pas forcément seulement du jeu vidéo suisse. Parce que j'ai trouvé ça intéressant de voir que, en fait, c'est la Maniavox Odyssey qui a été la première console distribuée en Suisse en 1974. Puis, il y a eu un premier vrai boom dû au Game & Watch de Nintendo en 81. Et en 86 aussi, avec la NES. Ce qui m'a un petit peu étonné, puisque en France, il me semble qu'elle est sortie en 87. Donc, j'étais un petit peu jaloux. Mais
c'est le 87-88 en France, tu sais, on est jamais trop clair. On pourra en reparler ça un petit peu plus tard des histoires de date.
Tout à fait. Et bien sûr, après, avec dans les années 90, et le succès des 16 bits, il y a eu un pic au niveau économique pour le marché du jeu vidéo en Suisse en 2008. Donc, je ne vais pas aller rechercher les chiffres plus en avant, mais j'imagine, comme beaucoup de pays, grâce à la Wii et la DS. Puis, à cause de la crise de 2008, ça a un petit peu baissé. Mais jusque-là, c'était quand même assez ressemblant à la France. Il y a eu aussi effectivement des tentatives de faire évoluer les mentalités concernant les jeux vidéo par les Suisses, puisque comme ils sont pas les seuls, hein, bien sûr, mais les Suisses ont eu, les jeux vidéo en Suisse ont une image à la fois d'être pour les enfants et à la fois de véhiculer pas mal de violence.
Oui.
Il a fallu attendre 2010 pour que le gouvernement s'intéresse aux jeux vidéo comme témoignage de création, notamment avec l'initiative Game Culture via la fondation gouvernementale Swiss Arts Council Pro Helvetica, pour essayer de créer un réseau de développeurs suisses, puisqu'il y en a quand même un certain nombre. Et il y a eu un état des lieux de ces développeurs, de ces sociétés suisses de jeux vidéo, qui était demandé à Beat Suter de la Zurich University of Arts, un questionnaire envoyé à 150 développeurs suisses, et qui ont montré surtout un manque de réseau entre les développeurs, et donc il y a des actions qui ont été entreprises. Et comme notamment ce qui a été montré, c'est que en moyenne, les équipes de développement de jeux vidéo en Suisse sont composées de 5 personnes, forcément, les machines de prédilection pour le développement, ce sont surtout les mobiles et le PC.
D'ailleurs, j'en profite pour rebondir là-dessus. Joël, toi qui es développeur, est-ce que dans tes productions à toi, est-ce qu'il y a des choses qui te paraissent typiquement suisses?
Alors, pour le jeu, l'aventure textuelle d'Athouse, je ne pense pas. C'est surtout très personnel comme jeu. Et puis, je prends des références à gauche à droite d'albums de musique, de séries que j'ai regardées, comme ça. Donc, celui-là, pas trop. Après, Vote Now, on peut difficilement faire plus suisse. C'est un jeu sur l'histoire politique suisse. Où on joue un parti politique non nommé, mais de gauche, qui cherche à faire passer des lois en influençant la population à coup de propagande, d'affiches, de campagnes de pub, de manifs et autres. Donc, c'est clairement influencé par la Suisse dans son texte, quoi.
D'accord. Et,
surtout qu'il y a une portée historique.
Tout à fait. Donc là, justement, en fait, c'était un peu une question, c'était un peu une question rhétorique dans la mesure où, en particulier, sur ce jeu-là, précisément, ça parle évidemment de l'histoire de la Suisse. Mais en fait, la question, est-ce que, outre, je dirais, la thématique, est-ce que, alors là, vous pouvez tous répondre, est-ce qu'il y aurait eu un particularisme qui apparaîtrait relativement facilement dans ce qui définirait aujourd'hui le jeu vidéo suisse?
Une Suisse Dutch, un peu. je sais que la Suisse, actuellement, a une réputation, en gros, pour faire des jeux un peu originaux, un peu bizarre, un peu avant-gardiste comme ça. C'est un peu la réputation qu'on a à l'international. Après, en termes de jeux, notamment si je pense à des jeux qui sont sortis récemment en Suisse avec Phare 2, on a Swordship, qui est excellent, qui est un jeu arcade, qui est une sorte de... comment est-ce qu'on dit déjà, de shooter top-down, mais inversé, c'est-à-dire qu'en fait, nous, on doit juste esquiver des trucs et puis faire en sorte que les ennemis se tirent dessus.
D'accord.
Je pense que peut-être un marqueur du jeu vidéo suisse, en tout cas de mon expérience, ce serait effectivement une certaine originalité pour essayer de se démarquer, essayer de tester un peu des nouveaux trucs, pas forcément juste essayer de faire un gros jeu AAA. Je sais pas, on va pas essayer de faire un jeu Ubisoft, quoi. Souvent, c'est des plus petites équipes, donc on a un développement plus indépendant. Et souvent, on a tendance à essayer de vouloir proposer quelque chose de nouveau. Et puis, on a aussi tendance souvent, on a régulièrement tendance à aussi parler un peu de la Suisse. Un des derniers grands succès, Swiss Moondown, se passe dans les grisons. On parle le Romanche, qui est une des quatre langues nationales suisses. Donc voilà, c'est un petit peu les deux points que moi, en tout cas, je remarque. Je sais pas ce que mes collègues auraient à ajouter.
Non, je pensais à la notion d'Helvetica, en fait, qui traverse vraiment aussi d'autres arts, en fait, même pour le cinéma. On se pose la question à la cinémathèque suisse, qu'est-ce qui est vraiment du cinéma suisse, s'il y a juste un producteur, est-ce que c'est suisse, enfin, y a vraiment plein de questions autour, mais c'est vrai qu'au niveau de la forme, pour le jeu vidéo, je peux difficilement me prononcer, à part pour Moondown, qui est vraiment effectivement le jeu suisse par excellence, avec toute l'imagerie suisse.
Robert,
je vais peut-être résumer un peu, effectivement.
Si tu as d'autres choses à dire, petit cas.
Dans l'histoire de la Suisse, il y a toujours eu des relatives petites équipes. Il n'y a pas eu, peut-être comme il y a pu avoir dans d'autres pays, la notion de créateur de jeux vidéo avec d'auteur, on va dire, ce qui peut impliquer, on va dire, une forme de noblesse. Et donc, il y a aussi beaucoup de jeux qui sont faits, qui ont pu être faits par des gens relativement techniques. Sur d'autres aspects, que ce soit artistique ou narratif, les capacités qu'ils avaient d'équipe. Et c'est ça qui traverse un peu l'histoire du jeu vidéo suisse, c'est que, à part quelques exceptions, effectivement, c'est des petites productions. Et comme toutes les petites productions, il faut trouver une manière de se distinguer. C'est pas une industrie qui est vraiment subventionnée, c'est aussi un défi, parce que s'il y a vraiment une industrie qui est relativement, ça commence, mais c'est une industrie qui ne l'est pas autant que dans d'autres endroits, qui n'est pas forcément défiscalisée, donc il n'y a pas forcément des raisons, on va dire, autres que la création. Et donc forcément, les gens qui vont proposer, ils vont le proposer avec leurs moyens et avec leur intention, et donc ça donne des jeux. Alors effectivement, il y a des jeux qui vont être des images d'Épinal, de la Suisse, ça va être Heidi le jeu, on va dire, et puis après il y a des jeux, on en parlait, les jeux phares dans tous les sens du terme, hein, c'est-à-dire Phare Changing Times, c'est quand même un des grands jeux, un des grandes fiertés des jeux suisses. Et aussi, quelque chose qui est important, et peut-être quelque chose qui est différent, en fait, on va dire, peut-être dans certains pays, c'est que ce n'est pas toujours forcément ça, c'est de l'aide de plus en plus, mais il n'y a pas de raison particulière de mettre en avant le fait que notre jeu est suisse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce côté, alors peut-être par exemple pour la France, ben voilà, le rayonnement culturel français fait que si on se dit un jeu français, il va y avoir peut-être une touch, et la Suisse ne va pas forcément le faire. Donc beaucoup de jeux que les gens ont pu voir, beaucoup de jeux que les gens ont pu peut-être faire, ils peuvent très bien complètement occulter ou oublier le fait que c'est un jeu suisse. Et donc c'est quelque chose aussi qui progressivement commence à arriver, et justement grâce aux différentes initiatives dont parlait Seb, c'est quelque chose qui commence à émerger, c'est-à-dire vraiment de se dire on essaye de mettre en avant Swiss Games, hein, c'est un peu le label que les gens essayent de mettre en avant. Et puis est-ce qu'il y a, il commence à y avoir une Swiss Touch qui émerge là? Je pense que pour nous c'est un peu tôt pour en parler, mais je pense que des gens qui sont plus au contact, on va dire, des développeurs et qui sont plus au contact des initiatives de promotion, il y a des choses qui, je pense, qui commencent à prendre forme sur, effectivement, bah, comme pour le cinéma, avec des moyens limités, avec des contraintes aussi de multilinguisme, etc. Bah, on hérite en fait d'une démarche en fait artistique qui est forcément différente d'un créateur français ou d'un créateur japonais.
D'accord, je vois. Et juste pour préciser, en fait, dans le chat, personne n'avait trouvé que le plus gros jeu suisse connu jusqu'ici, en fait, c'est Farming Simulator.
Exactement, parce que j'ai d'ailleurs appris grâce à nos invités et à leur mémoire. Et donc, Farming Simulator est donc développé par Giant Software, une compagnie suisse. Bien sûr, la série qui date de 2008 a eu un énorme succès en Allemagne, ce qui prendra la raison que je pense, qui fait que je pensais que c'était un jeu allemand, mais pas du tout. Il y a quand même c'est quand même une saga qui s'est vendue à 30 millions d'exemplaires partout dans le monde, donc je pense que c'est une sacrée fierté pour les Suisses, j'imagine. En tout cas, ils ont largement le droit d'en avoir cette fierté.
Oui, et c'est vrai que, enfin, pour connaître deux ou trois joueurs de Farming Simulator, c'est vraiment des joueurs qui ne jouent à quasiment rien d'autre que leur Farming Simulator. Donc, c'est vraiment un marché de niche, mais je pense que c'est un marché de niche où on trouve beaucoup de ce qu'on appelle des baleines. Mmh. Donc, des gens qui sont en capacité de mettre beaucoup d'argent pour faire vivre leur passion pour ce jeu. Est-ce que, à propos de l'histoire du jeu vidéo en Suisse, Seb, tu avais encore d'autres éléments?
Bon, je voulais juste simplement ajouter que il me semble que Robin en a un peu parlé. Il y a des universités, des entités qui font des certifications diplômantes, des diplômes, licences, master sur le game design. Ça depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Notamment, j'avais noté une université en Zurich, justement l'université des arts de Zurich, avec un master en media design. Et il me semble aussi l'université de Genève, qui font ce genre de diplôme. Ce qui est pratique, c'est que enfin, je ne sais pas si c'est vraiment tout à fait lié, mais les instituts suisses s'intéressent de plus en plus aux jeux vidéo. Il y a des expositions, il y a bien sûr des initiatives. Il y avait noté d'ailleurs à la maison d'ailleurs une exposition en 2012 qui s'appelle Playtime Video Game Mythologies. Et du coup, ouais, c'est un domaine académique qui se développe de plus en plus, et on en a la preuve ici ce soir avec trois de leurs plus beaux représentants.
Ok, c'est bon pour l'histoire du coup?
Oui.
Ok, eh bien, écoutez, moi ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe plus précisément autour du sujet de la préservation. Et alors, qui est un peu le cœur quand même de la démarche, donc nous y sommes. Et dans les discussions préparatoires qu'on avait eues donc, pour cette émission, Aurore, tu nous disais qu'il y avait une sorte d'urgence à la préservation précisément à ce moment, en ce moment. Est-ce que tu peux être un peu plus précise là-dessus?
Oui, enfin, dans le sens que tout ce qui est données digitales, ça s'abîme, on le sait. Et le problème, c'est que si on ne prend pas conscience du fait que ça s'abîme assez vite, du temps que ça se mette en place institutionnellement, ça, en fait, ça reste de plus être lisible, tout, ça va disparaître, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de vraiment. On a fait ce rapport aussi pour alerter, pas seulement au niveau des institutions, mais au niveau politique, en fait, pour dire que. Il faut vraiment qu'il y ait un soutien aussi institutionnel et donc financier pour sauver ce patrimoine, parce que on peut essayer de le sauver déjà par des. Il y a eu beaucoup de comment dire. Il y a eu des sauvegardes hobbyistes, il y a eu des sauvegardes de divers musées au niveau suisse, mais c'est vrai que c'est un peu épars en fait, où les gens font un peu chacun dans leur coin en essayant de ce qui est, mais ce qui est bien, hein, mais c'est juste qu'il faudrait vraiment qu'il y ait vraiment une espèce de souffle de un peu tous se mettre ensemble et de passer à la vitesse supérieure, parce que sinon on perd du temps pour essayer de savoir quelle méthodologie adopter, on n'est pas au courant que machin fait ça, enfin, donc vraiment c'est aussi ce que pointait le rapport à travers on a fait un sondage dans le rapport auprès de diverses institutions suisses, on a contacté 250 institutions, on a quand même eu 70 réponses, ce qui est pas mal pour un sujet qui pourrait être vu comme pas forcément très légitimé. Et en fait, c'est vrai que ce qui ressortait, c'est qu'il y a un manque, en fait, de comment dire, il manque une sorte de centre de compétences, pas forcément une espèce de cinématique du jeu vidéo, mais vraiment une plateforme ou quelque chose où les professionnels pourraient échanger pour savoir comment bien archiver, en fait, ce matériel. Parce que souvent, les institutions nous disent en avoir, mais ce matériel, comment gérer les métadonnées. Toutes les institutions n'ont pas forcément encore d'archivistes numériques. Donc, il y avait vraiment l'idée de. Voilà, ils ont besoin d'un guide des bonnes pratiques, de discussion là autour. C'est vraiment un moment où il faut commencer à préserver ça avant que ça disparaisse. Quoi.
Oui, d'accord. Parce que dans le rapport que vous avez écrit, il y a des recommandations pour les politiques, pour les archivistes, pour plein de facettes différentes.
Oui, alors ça, on l'a fait, et c'est en fait, on ne résout pas la question, évidemment, juste par le rapport, mais on essaie de montrer quelles seraient un peu les voies c'est pas forcément améliorer la situation, mais c'est un peu utiliser ce qui est déjà fait, et puis essayer de perfectionner, de savoir vers quoi aller pour éviter que ça soit un peu laissé dans un coin en se disant on sera plus tard, en gros. Et puis, il y a aussi le fait qu'il y a des témoins clés de la période des années 70-80. Ça serait bien de les interroger, de savoir. On va perdre tout un savoir, en fait.
Oui, en fait, vous vivez, et en fait, comme à peu près à tous les niveaux, je peux faire des parallèles avec ce qu'on vit en France à propos de ce qui restera de Thomson. Et des MO5 et TO7, on a pu faire ces émissions-là chez MO5. Et à propos du matériel, en fait, je renvoie toujours au même à peu près à la même référence, qui est l'énorme bouquin de. Alors Seb, tu reprendras parce que je pense que je n'arrive jamais à prononcer son nom. John Stepaniak.
Stepaniak, exactement.
Stepaniak, oui. Qui est donc l'auteur de l'histoire cachée des développeurs de jeux vidéo japonais, et qui interviewe donc Joseph Redon, qui est président et fondateur de la Game Preservation Society, donc un institut de préservation, un Français au Japon qui veut préserver le jeu vidéo japonais. Et un des trucs qui m'avait le plus marqué, c'était vraiment que le vrai problème actuel, la course contre la montre qu'on mène, c'est contre la moisissure des bandes magnétiques. C'est surtout ce problème-là qui est finalement central actuellement, ce qui veut dire que même des tas de jeux dont on disposerait de copies, même en état mint, donc sous plastique, eh bien, serait totalement impossible à utiliser aujourd'hui, vu que les bandes sont totalement pourries. Enfin, totalement.
Alors bien, ça, c'est surtout au Japon, en fait. Non, excuse-moi, je te coupe.
Oui. Vas-y, parfait.
C'est surtout au Japon, en fait, où ils ont énormément ce problème d'humidité selon les saisons, justement. Qui est vraiment, c'est effectivement très problématique. Mais c'est justement, comment dire, ce matériel, on ne peut pas le préserver juste dans une cave en se disant, ben, on verra, on garde là, on attend, non, en fait, où qu'on habite. Donc, c'est pour ça que l'idée, ce serait de soutenir les institutions pour préserver ça correctement avec une humidité, une température contrôlée, voir comment justement conserver les jeux, changer enfin, par rapport aux différentes plateformes, mais ça, c'est justement, c'est plutôt Romain qui va en parler, tout ce qui est émulation. Donc, voilà, il faut vraiment, il y a tellement à réfléchir là autour de savoir comment faire pour un peu institutionnaliser la chose et faire en sorte que ça ne disparaisse pas en fait.
Ok. Robin, tu veux rebondir là-dessus?
Oui, alors j'ai vu dans le chat, là, il y a des gens qui parlent de plein de choses. Il y a des gens qui parlent de, il faut créer un musée, il faut envoyer Jeff et Altomar, le commando français, etc. Il y a une partie de vrai et une partie de faux. C'est-à-dire que ce qu'on a constaté avec le rapport et ce qu'on promeut maintenant, c'est que des structures, s'il y en a, il y a des structures qui existent, comme il en existe en France. Et le problème, ce n'est pas tellement que des structures existent et que les structures puissent faire ce qu'elles aimeraient faire, et c'est qu'elles puissent dialoguer, collaborer, échanger, parce que bah voilà, on a contacté, il y a des institutions, donc par exemple la bibliothèque cantonale, donc la structure cantonale en Suisse, hein, c'est l'équivalent des régions, donc c'est quand même des choses qui ont pas mal de pouvoir, qui ont pas mal d'autonomie. La bibliothèque cantonale de Fribourg, donc le canton de Fribourg, par exemple, a décidé d'évaluer l'ajout en fait à leur dépôt légal des jeux vidéo qui sont produits dans leur canton. Donc ça, c'est quelque chose qui est une initiative qui est évidemment très louable, mais avec le revers instantané de mais comment on va faire. Est-ce qu'on va avoir demain un développeur qui nous envoie un disque dur avec 3 Tera, avec tous les assets? Est-ce qu'ils vont nous envoyer une édition de leur jeu PS4 et puis on va se retrouver avec un jeu PS4 qu'on aurait pu acheter dans le commerce? Donc là, il y a des vraies discussions sur comment faire les choses. Donc, pour nous, et la SVGA ne souhaite pas devenir elle-même, l'association ne souhaite pas devenir elle-même un musée, elle ne souhaite pas non plus devenir elle-même une archive, c'est-à-dire qu'on va avoir des jeux peut-être temporairement, le temps de travailler dessus, ou même ne pas les avoir, mais travailler temporairement sur des données, sur des objets, et ensuite l'objectif c'est qu'ils rejoignent une institution existante qui est déjà financée, c'est-à-dire l'objectif c'est pas de dire... Parce qu'on le sait tous, hein, le camembert de la culture, il est déjà bien, bien grignoté par tout le monde. Le camembert, le gruyère, le comté, hein, je veux pas faire de jaloux. C'est déjà difficile. Donc, s'il y a des institutions qui sont déjà financées, qui ont déjà beaucoup de choses en place, c'est-à-dire qui ont déjà peut-être des structures d'archivage, que ce soit des structures d'archivage d'objets physiques ou d'objets numériques. Par contre, ces institutions-là, aujourd'hui, elles nous disent, vous nous amenez un Farming Simulator, on va lui mettre un code barre, et puis on va le mettre dans un rayon, et puis nous, on a fait notre travail. Elles savent qu'elles n'ont pas fait leur travail, mais elles savent qu'elles n'ont pas d'autres capacités. C'est-à-dire qu'elles disent, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire avec un jeu? Eh bien, elles ne savent pas, en fait. Elles disent, aujourd'hui, on le prend comme un livre, et puis on lui met un code barre, et c'est tout. Sauf que, bah, contrairement à un livre, c'est plein de matières différentes. Il y a du plastique, il y a différents polymères, etc. Donc, ça va vieillir à des vitesses différentes, ça va se mettre à coller, ça va se mettre à se dégrader, à se décomposer. Et donc, c'est ça qu'il faut qu'on amène aux gens. Il ne faut pas qu'on leur dise, nous, on ne veut pas venir et dire, OK, on est une nouvelle institution, merci de nous donner de l'argent pour construire une nouvelle archive, un nouveau musée, etc. Il y a déjà beaucoup de structures existantes avec leurs qualités, leurs défauts. Et nous, on n'est pas là pour juger ces institutions-là. Elles ont leurs propres défis, évidemment. On sait que ces institutions-là, elles n'ont pas toujours le temps de faire ça. Parce que déjà, elles se battent pour pouvoir survivre, pour pouvoir, si c'est un musée, faire des expositions. Si c'est une bibliothèque, elle a ses activités courantes de bibliothèque cantonale. Et donc, l'objectif, c'est de dire, on est une sorte de task force qui peut venir vous aider, qui peut prendre aussi des problèmes que vous avez. On ne sait pas comment décrire des jeux vidéo dans notre base de données. Alors ça, c'est le problème partout. Et puis, il y a des solutions plus ou moins bonnes, plus ou moins... Et puis, la description des objets, c'est un problème éternel hein, dans toutes les structures culturelles. Donc, des fois, c'est bien normé comme les bibliothèques, mais des fois, c'est un peu plus variable, on va dire. Donc là, par exemple, il y a un vrai besoin aujourd'hui d'un certain nombre d'institutions dans le monde pour que les gens commencent à se dire, OK, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur un ensemble de métadonnées, un minimum. Donc là, pour ceux qui connaissent un petit peu les métadonnées, bah, il y a des choses qui existent, par exemple, dans les structures comme Dublin Core, qui sont un ensemble de 15 métadonnées que la plupart des structures archivistiques, culturelles, se disent, bah, voilà, si on arrive déjà à avoir ces 15 métadonnées pour un objet, bah, c'est déjà bien. C'est-à-dire, qui l'a fait, quand est-ce qu'ils l'ont fait, où est-ce qu'ils l'ont fait, de quoi ça parle. Un intitulé, bah, c'est des choses très simples, mais déjà sur les jeux vidéo, bah, malheureusement, on ne peut pas déjà garantir ça pour tout. Déjà, les dates, bah, on le sait bien, hein, tu en parlais, Pipo, les dates, on n'est pas toujours d'accord. Et puis, un élément aussi qui est important, c'est avant de savoir, pour préserver le patrimoine suisse, il faut savoir ce que c'est le patrimoine suisse. Et donc, pour pouvoir savoir ce que c'est, bah, y a tout un travail d'identification, de catalogage des œuvres avant même de pouvoir aller sur les boîtiers, les choses comme ça. Donc, c'est-à-dire, bah, évidemment, à partir des années 2005-2010, on a des choses qui sont relativement... Il y a Internet qui est présent, il y a des stores, il y a des magasins, il y a des inventaires, tout ça, on trouve. Par contre, tous les jeux qui ont été faits en flash, tous les jeux qui ont été faits en ligne, bah, ça, on a perdu énormément. Les jeux mobiles aussi, parce que je le disais, c'est toujours des petites équipes. Donc, les petites équipes, c'est-à-dire... Comment les équipes suisses ont travaillé ? Elles ont travaillé dans les universités, donc c'est des jeux qui ne sont pas édités, donc là on a très peu de traces. Ensuite, on arrive sur des petites éditions, petites distributions. On arrive sur l'époque Amiga, Atari, donc là il y a pas mal de choses qui sortent. La problématique pour cette époque-là, ce n'est pas vraiment de retrouver, parce qu'évidemment, c'était tellement distribué, c'est de retrouver les originaux, c'est-à-dire pas la version craquée avec la craque trop, etc. Donc là, il y a vraiment la démarche de dire est-ce qu'on arrive à trouver les originaux avec les copies anti-protection. Et puis arrive la vague des mobiles, de la distribution facilitée grâce à Internet. Et puis là, bah, on perd évidemment énormément de traces. Et donc, et encore aujourd'hui, on va dire avec beaucoup de dématérialisés, beaucoup de jeux qui sortent aujourd'hui de jeux suisses n'ont pas souvent l'opportunité d'avoir une version matérielle. Donc, vous pouvez envoyer Jeff et Alto si vous voulez, mais si c'est un jeu qui est dans le store, je crois que c'est pas non plus les gens, c'est pas les gens qui ont les plus de compétences. Et la création d'un musée, c'est absolument pas l'objectif parce qu'il y a déjà énormément d'initiatives qui sont. Et donc nous, l'objectif, c'est vraiment de dire voilà, nous, on veut se concentrer sur ces questions-là, les techniques. Et évidemment, s'il y a des supports anciens, des disquettes, ce genre de choses, bah, travailler sur les meilleures techniques pour le faire, pour former les gens aussi. C'est-à-dire, l'objectif, c'est pas forcément de le faire nous, mais si c'est des choses que les gens peuvent faire dans leur institution avec leurs outils, bah, on va pas chercher à prendre la place de ces gens-là. Donc c'est plus un réseau, voilà, de connaissances, d'échanges, que vraiment de créer. Donc c'est là où on n'est pas exactement dans la même mission que MO5, par exemple, qui a des vraies intentions qui doit continuer. Hein. Il faut continuer dans cette direction-là. Mais nous, les initiatives, elles existent déjà. Elles essayent déjà avec énormément d'énergie, avec malheureusement pas toujours autant de succès que ça serait mérité. Mais voilà, ces structures-là, elles doivent essayer de faire ça. Et le jour où ces choses-là émergeront, bah, on sera heureux qu'elle puisse accueillir le résultat d'un travail qui aura été fait d'archivage, de contextualisation et ce genre de choses. Et c'est deux choses qui peuvent être faites en parallèle et absolument pas en concurrence.
Ça me fait penser que suite à la, je crois que c'était la ressortie de Final Fantasy VII récemment, il n'y a pas le remake, mais il y a eu juste avant une ressortie de Final Fantasy VII. Et il y avait eu tout un débat autour de la récupération des assets originaux du jeu. Des assets originaux, pardon. Et en fait, on s'était aperçu que les assets originaux avaient sans doute été totalement effacés. Et c'est pour ça que la version de base, c'était la version PC, qui était restée, elle, sur les stores pour pouvoir être récupérée. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, même avec, je dirais, une quand même... beaucoup plus grande capacité de stockage, on a encore finalement le problème, et on se rajoute un nouveau problème avec les stores en ligne, bah, de cette capacité à pouvoir retrouver tous les assets. Du coup, Joël, toi qui es des deux côtés de l'histoire, comment est-ce que tu préserves tes propres assets? Est-ce que tu peux dire, j'ai absolument tout pour mes propres jeux?
Bonne question. Alors moi, j'ai l'avantage que les jeux que j'ai codés, j'ai toujours fait en sorte de les coder avec un repository GitHub dessus. Enfin, j'ai toujours tout pushé sur GitHub déjà pour bah, d'un côté, c'était plus simple pour moi d'avoir une idée de ma progression et puis de comment est-ce que le développement avançait. Ça me permettait aussi d'avoir des retours, des gens qui me faisaient des issues, des trucs comme ça. Mais d'un autre côté, ça fait aussi que ben, techniquement, ben, là, j'ai un endroit alors en ligne et qui n'est pas personnalisé où il y a absolument tout qui est dessus. Alors, il n'y a peut-être pas les croquis des dessins, des sprites que j'ai faites. Ça, c'est plutôt sur mon ordinateur où là, je vais avoir un dossier consacré à tous les dessins, toutes les productions visuelles que je fais. Donc, moi, personnellement, je peux dire que oui, j'ai tous les assets de mes jeux. Après, justement, la question, ça va être plutôt maintenant qu'on est dans un jeu qui est développé par plusieurs personnes, qui n'a pas forcément un repo GitHub qui est public, parce que moi, les biens sont publics. Donc, même là, les gens peuvent eux-mêmes, s'ils veulent, aller regarder un peu, se renseigner, fouiller ce que j'ai fait. Ensuite, est-ce qu'ils font des sauvegardes à l'interne? Est-ce qu'ils ont genre, je sais pas, un drive quelconque comme ça? Genre, comment est-ce qu'on attend ça? Les croquis de l'équipe qui fait les designs, bah, est-ce que genre eux ils les gardent chez eux, puis eux ils envoient les versions finies aux développeurs et développeuses pour qu'ils puissent ensuite les utiliser. Enfin, tout ça en fait, les traces du travail qui est fait, en fait, ça c'est quelque chose qui se perd très très vite. Et c'est. Alors, avec GitHub, on arrive un petit peu parce qu'on a vraiment un historique, on peut même revenir dans le temps pour voir quelles sont les modifications qui ont été faites. Mais dans un projet qui est plus gros et qui est moins indé, slash amateur, comme c'était mon cas, bah, ensuite c'est tout de suite plus compliqué en fait, de pouvoir préserver cette évolution et puis ensuite tous les assets qui vont avec. Quoi.
Ok. Alors sur la question de la préservation, donc on voit quand même se développer des questionnements qui sont vraiment internationaux, hein, comme vous le disiez depuis le début. Moi, ce que je... alors, oui, question pas inintéressante de Nadar sur le chat, c'est est-ce que GitHub garantit la préservation? Est-ce que demain, on peut pas tout perdre sur GitHub?
Ben non, c'est un peu ça la limite dans mon utilisation de GitHub, c'est que pour l'instant, GitHub tourne, mais je suis entièrement dépendant de leur serveur, de leur bonne volonté de mettre en ligne ces données gratuitement. Et publiquement. Voilà, donc le jour où GitHub, pour une quelconque raison, change son business model ou carrément venait à disparaître, même si ça serait peut-être un scénario surprenant, en tout cas dans un futur proche, ça veut dire que les données qu'il y a dessus, a priori, elles sont soit loquées derrière un paywall, soit elles sont perdues, elles sont uniquement sur les serveurs maintenant clos de GitHub, ou alors carrément, elles seront détruites parce que ces serveurs, si GitHub devait vraiment disparaître et qu'il faisait un clean total, et ben, là, tout ce qu'il y a dessus va disparaître. Donc ça, c'est aussi un peu les limites, c'est qu'en termes d'outils et de plateformes pour pouvoir archiver son jeu, pour l'instant, déjà, à l'international, il n'y a pas grand-chose, et puis alors, au niveau suisse, ben, effectivement, on n'a pas de centralisation de ce genre d'outils, malheureusement.
Ce serait vraiment une forme d'apocalypse numérique. GitHub, ce serait vraiment ce serait monstrueux. On espère que ça n'arrivera pas, mais ce serait vraiment horrible.
Évidemment.
Ouais.
Ça a déjà été le cas quand Flash est mort aussi. Enfin, quand les jeux Flash sont morts, c'est comme Newgrounds, ça a été le carton. On a perdu des milliers et des milliers et des milliers de productions, même des millions, selon comment. Donc ouais, ça serait un scénario réalisé si c'est possible.
Ah ben on a perdu, on a perdu, alors c'était pas sur Newsground, c'était sur le... en fait il y avait pas une parodie, mais je sais pas si vous vous souvenez de l'époque des Flappy Birds. Il y avait eu un remake de Flappy Birds par le réalisateur, par la personne qui a fait VVVVV. Ou Don't Look Back, qui s'appelait Maverick Bird, qui était vraiment une version d'enfer et qui aujourd'hui n'est plus jouable. Et c'est vraiment très triste parce que j'ai vraiment passé beaucoup trop de temps sur ce jeu-là. Un point sur lequel je voudrais revenir aussi, c'est la notion, on en a un peu parlé au début, mais je voudrais revenir quand même dessus, de moment de la légitimation. Donc il y a un sujet qui a été avancé par Aurore. Alors, on voit quand même que des initiatives comme ça au niveau international et au niveau institutionnel commencent à émerger à peu près dans pas mal d'endroits. On sent qu'on est dans le temps de la légitimation, mais à quel moment on pourra réellement se dire, est-ce que c'est possible ? De se dire, ben voilà, maintenant, notre domaine, le domaine du jeu vidéo, est parfaitement légitime et on n'aura plus à subir des critiques totalement débiles comme on a eu dernièrement en France sur la violence des jeux vidéo qui remontait au plus grand moment de la télé de 1987. Qu'est-ce qui pourrait nous manquer, Aurore, pour être certain que le moment de la légitimation est passé ?
Alors, je tiens juste à préciser que ce genre de panique morale pour dire que c'est mauvais, ça flatte les bas instincts, ça rend les enfants violents, en fait, il y avait les mêmes remarques contre le cinéma au début, pour dire que ça rendait les gens débiles, ça montrait comment faire des cambriolages, qu'il y aurait une hausse de la criminalité à cause du cinéma, que ce genre de truc. Puis après, ça a été la télé, puis après, ça a été les jeux vidéo. Donc, en fait, il y a toujours un problème avec un nouveau média, quoi, en gros. La question, c'est oui. Alors effectivement, quand est-ce que je pense pas qu'il y ait vraiment, comment dire, une espèce de césure où genre c'est bon, maintenant c'est légitimé. C'est-à-dire que on voit que il y a des groupes de recherche qui se sont créés progressivement dans les universités. Maintenant, il y a des postes de professeurs dans les universités. Pour moi, en tout cas, c'est un peu mon milieu. C'est un côté très légitimant déjà. Mais, comment dire, il ne faut pas oublier tout ce côté, justement, hobbyiste qui a permis de mettre en valeur en disant « c'est du patrimoine, il faut s'en occuper, nous on préserve, on fait déjà quelque chose en attendant ». Donc, en fait, il y a plusieurs couches de légitimation. Après, il y a aussi, moi je ne la connais pas bien, mais l'avènement de la critique de jeux vidéo, je pense que c'est important, tout ce qui est la presse autour, parce que pour le cinéma, ça a été un moment de légitimation très important aussi. Je pense que c'est vraiment en plusieurs couches. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Joël et Robin, mais je pense qu'on est déjà dans un processus de légitimation à certains degrés, et à d'autres degrés, ce n'est pas encore acquis, en fait.
Alors, personnellement, pour avoir fait une revue historique rapide dans le cadre d'un séminaire sur l'histoire du jeu vidéo suisse, du traitement politique du jeu vidéo au sein du Parlement suisse. Les paniques morales, elles existent encore toujours, malheureusement. C'est surtout des interpellations et des postulats qui sont déposés par des politiciens d'extrême droite. Donc on a un peu toujours ce relent ultra-conservateur qui va toujours vouloir trouver un bouc émissaire sur le jeu vidéo, parce que voilà, comme tu as dit, c'est quelque chose de nouveau. En termes de légitimation, il me semble que, dites-moi si je me trompe, hein, mais en France, le gouvernement reconnaît le jeu vidéo comme un 10e art, ou il y a un truc comme ça, il me semble avoir vu.
Oui.
Voilà. Donc ça, c'est un niveau de légitimation qui peut servir de base. Après, à mon sens, en tout cas, un des problèmes que le jeu vidéo est là pour se faire légitimer, c'est que ce soit du point de vue du grand public, mais aussi du point de vue finalement des joueurs ou des joueuses. Pour l'instant, le jeu vidéo est encore considéré largement comme un bien de consommation et c'est un peu tout. Malgré le fait qu'il y ait toujours des gens qui soient là pour le défendre en tant qu'art, en tant qu'objet important, culturellement, politiquement, artistiquement, on a aussi toujours en fait, beaucoup de gens qui le voient comme juste voilà, un moyen de se divertir après le boulot, le soir, et puis ensuite, je passe à autre chose. Donc, je pense qu'il y a clairement un problème, disons, d'état d'esprit général. Après, moi, personnellement, je vous avoue que des solutions comme ça, pour faire changer le point de vue de tout le monde, ça va être un petit peu compliqué. Je ne sais pas si Robert, toi, il me semble que tu as écouté, enfin, réactiver ton micro pour réagir.
Merci, merci Joël. Je pense, j'avais lu, il y a eu une enquête qui a été faite de manière très générale, comment on fait changer les mentalités dans une société. Et apparemment, on peut pas faire changer les gens, mais les gens changent parce que les gens partent.
Bon.
Les gens les postes sont remplacés. Et en fait, c'est assez simple. Il va y avoir des. Il commence à y avoir dans la classe politique suisse, dans les gens qui dirigent les entreprises, les gens qui enseignent, des gens qui ont grandi avec le jeu vidéo. Et du coup, pour eux, le jeu vidéo est normalisé. C'est-à-dire que ils ont un recul par rapport à ça. Ils n'ont pas cette image déformée, en fait. Et ce qui se passe aussi, c'est que...
Déjà, ils savent ce que c'est.
Voilà, exactement. Ils savent ce que c'est. Ils connaissent les codes. Ils savent qu'un jeu en ligne, on ne peut pas mettre en pause. Enfin, il y a des choses comme ça. Moi, je sais que j'ai des collègues où il faut que je leur explique que Fortnite, on ne peut pas mettre en pause. Qu'on ne peut pas juste sauvegarder et puis on revient après dîner et puis qu'on peut finir la partie. Et ça paraît évident, mais c'est vrai que quelqu'un qui n'a pas suffisamment les codes ne comprend pas. Donc, quand c'est les parents, c'est pas grave. Quand c'est les dirigeants, c'est un peu plus grave que les dirigeants ne le sachent pas. Surtout maintenant qu'on sait qu'il y a vraiment en dessous d'un certain âge, vraiment une consommation du jeu vidéo ou un rapport au jeu vidéo qui est complètement quotidien ou hebdomadaire. Donc ça, c'est la première chose, c'est que ça va arriver et ça peut paraître étrange. Et je sais qu'MO5 existe depuis 20 ans. Beaucoup de gens, et là aussi, c'est des choses que les gens pourraient nous dire, hein, mais SVGA, ça arrive en 2022, 2023. Le problème, il existe depuis très longtemps. Et si on avait pu commencer dans les années 90, ça aurait été idéal. On sait que les précurseurs ont été des petites initiatives personnelles. Puis ensuite, il y a eu des précurseurs associatifs. Je crois qu'il y a très peu de choses qui sont beaucoup plus anciennes que MO5 dans le monde. Ben voilà, au début des années 2000, les gens ont commencé à se poser des questions, ont commencé à préserver ça. Souvent, c'était des collectionneurs qui ont commencé à se dire « Ah, mais attendez, je vois des cartons de jeunesse et de SNES que plus personne n'avait envie de voir parce qu'il y avait la PlayStation 1, la PlayStation 2. » Bah, c'est la même chose avec le cinéma, c'est la même chose avec ces arts qui ont évolué technologiquement très rapidement. Bah, il y a eu un moment où les gens se sont dit « Non, mais c'est plus possible, on ne peut plus brûler les bobines pour en faire autre chose. On ne peut pas jeter des jeux et puis espérer que toute cette trace en fait, disparaisse, cette trace importante en fait, de ce que les gens avaient vécu dans les années 80 et 90. » Donc, mais ça, si on regarde par rapport à la marge du temps dans les autres formes d'art, le jeu vidéo et l'informatique n'est pas si en retard que ça. Il faut du temps. Il faut du temps. Il faut 50 ans, 60 ans. Il faut des périodes peut-être sans trop de crise pour que ça aide. C'est pas le moment aujourd'hui où la culture a la chance d'avoir beaucoup d'investissements. Et donc, c'est pas le moment où on peut lancer des grandes initiatives. Les initiatives dans le cinéma, la Cinémathèque Suisse a commencé un petit peu avant la guerre. En plus, dans un pays qui était un petit peu isolé, hein, sur certains aspects, elle avait un petit peu de chance pour ça. Mais voilà, les initiatives de préservation du cinéma, elles ont commencé un petit peu avant la guerre, elles ont pu faire quelque chose, mais après, il y a beaucoup de choses qui se sont développées après la Deuxième Guerre mondiale. Bah là, c'est un peu pareil. Le jeu vidéo, il n'arrive pas forcément dans une période économique en ce moment qui est la plus favorable, mais on arrive dans un état d'esprit où les gens qui créent ont déjà joué à des jeux qui sont en train de disparaître. C'est-à-dire qu'on a des gens comme Joël qui crée des jeux vidéo, on a des gens plus âgés aussi, hein, des créateurs français, qui ont dit « Moi, j'ai joué à ces jeux sur MO5, sur TO5, et ça a été mon inspiration, ça a été une source d'inspiration. » Donc là, ça permet de commencer à ce que les esprits des acteurs principaux évoluent. Après, la politique va suivre plus ou moins bien, ça prend toujours du temps. La Suisse est un pays qui est relativement stable, conservateur, donc ça prendra aussi un petit peu plus de temps, mais ça peut prendre une forme qui soit, une fois que les initiatives, une fois que les volontés seront en place, qui sera une initiative stable. Donc l'objectif aussi, c'est pour notre association, de justement suggérer, trouver en fait la voie en fait, qu'il peut y avoir. Parce que voilà, il y a des voies comme la Game Preservation Society au Japon, c'est une structure para-étatique qui a du financement de l'État, avec tout ce que ça facilite et ou pas. Il y a en France beaucoup d'initiatives associatives, il y a l'initiative de la BNF qui est nationale, qui a une force de frappe grâce au dépôt légal qui est très grande, mais qui n'a pas forcément les ressources associées pour traiter cette force de frappe. Donc en fait, il y a énormément de choses qui sont collectées, mais avec des capacités qui sont difficiles pour une grande structure. Avec en plus une structure qui est dirigée, qui doit rediriger à la fois de l'audiovisuel, des choses beaucoup plus classiques, très difficile d'avoir une politique qui puisse intégrer tout ça. Donc Par exemple, est-ce que la stratégie, elle est d'avoir chaque structure régionale qui est son petit dépôt, ou est-ce que c'est une nouvelle grande vidéothèque, ludothèque suisse pour pouvoir matcher un petit peu à ce que fait la cinémathèque? Est-ce que c'est la bonne stratégie? Est-ce que c'est les archives? Est-ce que, parce qu'il y a, en Suisse, bah, les archives cantonales et les bibliothèques cantonales qui sont un petit peu différents dans leur fonctionnement. Il y en a certains qui vont plutôt traiter ce qui est produit et ce qui est édité, et puis il y en a qui vont plutôt traiter ce qui est matériel de conception, de production. Et donc là, on voit, bah, par exemple, la démarche d'un dépôt légal, en général, c'est bien pour avoir le produit fini, mais si on veut avoir les artworks, le processus artistique, les essais qui ont été faits, les prototypes, les choses comme ça, bah là, on rentre plus dans les catégories des archives, et puis là, ça sera difficile pour une bibliothèque cantonale de peut-être justifier, en fait, de rentrer dans ce domaine-là. Donc là, il y a vraiment une problématique, mais c'est, comme disait Aurore, et comme tu le disais aussi, Pipo, c'est un moment charnière, en tout cas en Suisse, mais aussi, je pense, au niveau mondial. C'est un moment charnière. Il y a des pays qui ont déjà des stratégies, et donc la problématique, c'est qu'il faut maintenant savoir comment la faire évoluer à partir de maintenant. Il y a des pays comme la Suisse où, pour dire tout à fait les choses clairement, il n'y a pas vraiment de stratégie. Il y a eu des initiatives. Il y a des initiatives qui sont plutôt bonnes. Il y a des initiatives qui sont plutôt efficaces. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que chacun reste dans son coin? Est-ce qu'on essaye de se mettre ensemble? Est-ce sur des initiatives de jeux suisses, malheureusement, il n'y en a pas eu jusqu'à maintenant. Il n'y a pas vraiment de structure qui s'est dit « Ok, je m'intéresse à ça » ou « J'essaye de m'intéresser à comment résoudre ce problème-là ». Et donc ça, c'est un vrai, vrai problème parce qu'il y a des initiatives qui ont pu avoir lieu, mais qui sont soit plus larges, soit plus spécifiques, mais du coup, qui ne vont pas pouvoir couvrir l'ensemble du patrimoine vidéoludique suisse. On a de la chance d'avoir un patrimoine qui est potentiellement plus petit que les autres pays. Si vous parlez avec Joseph Rodon, bah voilà, sa problématique, c'est que la production de jeux vidéo, en particulier sur micro-informatique et micro-ordinateur dans les années 80, bah, ça lui fait déjà quelques années de travail, on va dire. Nous, on a presque plus la démarche de peut-être de pouvoir aller plus loin, de pouvoir peut-être aller plus jusqu'au boutiste sur certaines choses qu'on a peut-être un peu moins. Et du coup, bah, on peut analyser aussi ces choses-là. Peut-être ce que d'autres structures ne peuvent pas faire à l'étranger, c'est-à-dire qu'elles ne pourront pas aller aussi loin parce que la quantité fait qu'elles ne pourront pas aller sur ce niveau-là de profondeur. Nous, on a encore énormément à sortir aussi. Je sais qu'en France, il y a le livre d'Alexis Blanchet qui a fait beaucoup ressortir de choses, qui disait bah, « il faut aller dans vos universités, aller parler à vos professeurs d'électronique, vous verrez, tout le monde a fait son pont dans son labo et c'est génial. Bah, » Ça, c'est quelque chose aussi qui n'a pas encore été fait en Suisse. Et il y a des initiatives académiques en fait qui commencent là, tout juste, qui commencent, qui impliquent des institutions suisses académiques pour pouvoir faire ce travail-là. Parce que finalement, bah, il y a le travail finalement d'écrire l'histoire et d'analyser l'histoire. Et ça, c'est pas que notre travail à nous. Ça va être aussi le travail des gens qui ont, par exemple, fait le chapitre du livre que mentionnait Seb. Et puis, évidemment, ces gens-là vont avoir besoin de matière. Ils ne peuvent, peuvent pas écrire l'histoire sans avoir la matière. Donc, ça va être une collaboration avec eux. Nous, il faut qu'on essaye de prendre contact, d'identifier les créateurs, de prendre contact avec eux, et pas seulement des jeux. Et là, c'est aussi quelque chose qui est important. C'est que le contexte du jeu vidéo, c'est aussi comment les gens ont vécu les jeux. Donc, ça va être bah, les magazines. Est-ce qu'il y a eu des magazines de jeux vidéo suisses, par exemple? Est-ce qu'il y a eu une histoire des bandes d'arcade, des salles d'arcade en Suisse? Il y a eu une histoire de la promotion des jeux en Suisse. Donc, est-ce qu'il y a eu des campagnes de promotion, etc., etc. Et donc, tout ça, ce qui englobe le jeu et ce qui contextualise le jeu dans la manière dont il a été distribué, vendu, conçu, bah, tout ça, ça commence à faire beaucoup. Et ça fait beaucoup pour une seule structure. Nous, notre structure, ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faut rappeler aux gens qui nous regardent, qui connaissent plutôt les structures françaises. Là, nous, vous avez quasiment la moitié de l'équipe devant vous. Donc, avec souvent un travail à 100% à côté pour pouvoir financer nos activités du soir et du week-end. Donc, ça veut dire que ça ne nous fait pas une force de frappe énorme. Donc, c'est aussi pour ça qu'on ne veut pas réinventer ce que font déjà d'autres. C'est-à-dire que s'il y a déjà des structures qui se battent pour créer des musées, pour faire des expositions sur le jeu vidéo, bah on va se reposer sur eux. C'est leur travail, c'est leur cœur de métier. Et puis nous, par contre, on pourra les aider. On pourra dire, bah voilà, est-ce que vous avez envie d'avoir un jeu? Est-ce que vous voulez ce jeu-là? On a trouvé ce jeu-là suisse. Est-ce que vous voulez le montrer? C'est un dialogue qui peut s'établir avec ces gens-là plutôt que de devoir créer des missions en parallèle de choses existantes.
En fait, ce qui est très bien donc, et ce qui est parfait en plus pour la suite de ce que je voulais de vous demander, c'est que tu définis très précisément le fait que votre feuille de route, finalement, elle est donc la feuille de route de toute l'association, elle est quand même relativement contenue. Elle est relativement précise. Évidemment, bah, comme on a bien compris maintenant que vous n'avez aucune vocation à être aussi large que AO5. Donc en fait, si je reprends juste ton exemple sur l'histoire, donc tu as parlé du livre d'Alexis Blanchet et de l'histoire du jeu vidéo en Suisse. Grosso modo, si vous deviez accompagner quelqu'un qui voudrait approfondir la question du jeu vidéo en Suisse, ce serait de suggérer quoi ? D'appliquer la méthodologie donc, du bouquin d'Alexis Blanchet en Suisse et de donner tous les contacts aux historiens qui souhaiteraient travailler sur le sujet ?
Ça, je pense que c'est déjà un petit peu. Hein, je pense qu'Alexis Blanchet, il y a un deuxième auteur, hein, j'ai un co-auteur.
Oui, tout à fait, oui.
Guillaume Montagnon.
Oui, exactement. Pour quand même rappeler que c'est un énorme travail en binôme. Ouais. Moi, je pense que cette démarche-là et cette démarche de. Et d'ailleurs, c'est une histoire, hein, il a toujours insisté, ont toujours insisté tous les deux pour dire que c'est une histoire. Et effectivement, je pense qu'il y a un travail en fait collectif, mais du coup pas limité à notre association, mais même pas limité aux gens qui souhaitent préserver le jeu, parce qu'il y a des gens qui souhaitent le préserver, il y a des gens qui le font, et puis il y a les gens qui l'analysent et le racontent. Ils analysent à la fois ce qui est créé aujourd'hui, mais aussi ce qui a été créé précédemment. Nous, notre démarche, elle va être d'essayer d'amener le plus de matières premières, c'est-à-dire que le monde académique n'est pas forcément celui qui aura plus la capacité d'aller chercher cette matière première. Par contre, ils ont la capacité, les outils pour pouvoir le raffiner, le mettre en contexte, le mettre en opposition avec des situations. La Suisse, par exemple, l'influence de l'Amiga et de l'Atari, c'est assez intéressant parce que c'est très influencé par ce qu'il y a pu avoir en Allemagne, par exemple. C'est-à-dire qu'on a une scène de création et là, on se rapproche de la démo scène, on se rapproche des copies parties et des choses comme ça. Et là, on rentre dans la sociologie en fait de cette époque-là. Ça, c'est des choses que nous, on peut survoler, évidemment. Et c'est, nous, ça va pas être de l'analyser, mais ça va être de les trouver. Par exemple, on a des vidéos de copies parties qui ont dans nos archives. Et donc, c'est génial. C'est un document magnifique. C'est filmé avec une caméra digitale au point. Et puis, on voit les gens. Moi, j'ai reconnu déjà des gens que je connais qui sont sur les vidéos. Donc, c'est assez marrant. C'est des gens qui travaillent dans le domaine de l'informatique. Étonnamment, la plupart de la pièce, j'imagine, a eu de fortes chances de continuer sa carrière dans l'informatique. Et là, on a un document qui n'est pas un jeu vidéo, qui n'est même pas, on va dire, un élément qui est important pour l'histoire, en fait, de la, voilà, les copies parties, les gens qui ont eu cette période, on va dire, et je raconte souvent l'anecdote, j'ai pris conscience que les jeux étaient édités et commercialisés très tard, vers 10-12 ans, parce que jusqu'alors, je pensais que tous les jeux venaient sur des disquettes écrits au feutre par une tierce personne, et je pensais que tous les jeux étaient édités comme ça. Je pensais pas que les jeux venaient en boîte, je pensais pas que les jeux étaient. Je pensais que les jeux ne venaient que sur des copies qui étaient faites et démarraient toujours avec des crack-throws, avec les trainers où je pouvais appuyer sur F9 pour être invincible. Et Dieu sait que sur les jeux Amiga, surtout à mon âge, c'était assez pratique. Et ça, c'est des choses qui sont autant importantes. Et ce document audiovisuel, ben voilà, nous on l'a aujourd'hui dans notre possession. Ben nous, on aimerait qu'il puisse rejoindre une collection de documents audiovisuels. Alors malheureusement, c'est pas quelque chose qui a été produit par la télé, donc ça fait pas partie des archives de la télé comme la RTS. Est-ce que c'est une archive cantonale? Est-ce que c'est une bibliothèque cantonale qui peut le recevoir? Pour l'instant, voilà, nous, il faut le contextualiser, il faut qu'on retrouve la date, ça, c'est le travail qu'on peut faire. Après, la préservation à long terme, c'est un autre problème. La démarche que nous, on pense, effectivement, c'est de dire aujourd'hui, il faut mettre les gens en contact, Le monde universitaire, donc une partie des gens qui ont travaillé sur Pixel Helvetica ont travaillé, font partie des universités. Et maintenant, bah, eux, ils ont leur projet universitaire gigantesque qui commence de leur côté. Là, nous, on est du coup sur un pendant plus archives, préservation, collecte, en fait, inventaire, catalogage, c'est-à-dire aussi le travail qui est en amont. Avant de raconter, il faut avoir la matière. Et je pense qu'on va énormément échanger entre eux. C'est-à-dire qu'eux vont prendre des contacts, ils vont tomber sur des gens qui vont dire « Ah ben voilà, j'ai 12 disquettes avec des prototypes. Bah, » Eux, ils ne vont pas rentrer en matière en se disant « Ok, nous, on va trouver comment on achète une polyne, on la configure, comment on fait un dump de disquettes, comment c'est quoi file system. » Eux, ils vont se dire « Ok, ben voilà, SVGA ou d'autres, les gens qui regardent ces questions-là, extrayez les fichiers, convertissez-les. » Et qu'est-ce qu'on peut en... Et après, livrez-nous ça, et puis après, nous, on fait la suite. Quoi. C'est un peu la démarche qu'on aimerait faire. Après, c'est toujours à la limite. Évidemment, nous aussi, on risque de faire toujours un petit peu de travail d'analyse, et eux feront toujours aussi un petit peu de travail de préservation. Mais c'est vraiment un échange, et puis ça, c'est quelque chose qu'on veut établir, que ça soit de ce point de vue-là, mais autant avec quelqu'un qui voudrait exposer du jeu vidéo et qui nous dit, bah voilà, moi, je ne sais pas comment marche l'émulation, est-ce que c'est légal d'émuler, est-ce que c'est légal de faire jouer des jeux émulés. Et ça, c'est des choses, par exemple, des questions où là, nous, on peut dire, bah, nous, on essaye d'aller se renseigner, on essaye de discuter avec le gouvernement, avec des gens qui sont experts dans ces questions légales, et puis ensuite de pouvoir donner une réponse et puis d'avoir des guidelines, des guides, pour aider ces gens-là ou les aider directement si vraiment eux ils n'ont pas les ressources ou les capacités.
Ouais, en plus ça c'est vrai que c'est une question. Tu parlais de justement pour la dernière partie et je vais venir, c'est sur la valorisation. C'est au niveau de ceux qui voudraient faire une exposition. Est-ce que tu veux faire jouer, je dis n'importe quoi, tu veux faire jouer des gens à Shadow of the Beast sur un pris totalement au hasard. Est-ce que tu mets un Amiga avec la disquette, avec tout ce qu'il faut pour y jouer, avec le risque que dans le cadre de ta exposition, avec les manettes, il y a un problème avec le jeu, le lecteur disquette ne fonctionne plus, ou est-ce que tu mets derrière la boîte en plastique Legit de la machine un petit émulateur ou sur une clé USB qui permettrait d'éviter ce genre de problème. C'est vrai, on a parlé au début de la fragilité et de l'humidité, des choses comme ça. Nous, c'est un problème qu'on a régulièrement. Quand tu mets des machines et rien que des machines totalement, je dirais, physiques pour le test, évidemment, tu prends le risque qu'il leur arrive des problèmes. Donc évidemment, la question de l'émulation dans ces cas-là se pose toujours. Le dernier point sur lequel je voulais avoir votre avis, c'est que on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé de la préservation. On a compris maintenant plutôt clairement la manière dont vous souhaitiez accompagner une prise de conscience et des travaux beaucoup plus larges que ce à quoi se destine votre association. Moi, je voudrais qu'on parle de la valorisation et autour d'un concept qui est le concept d'œuvre clé. Et j'imagine que pour ceux qui travaillent dans le centre de préservation, est-ce que il y a des livres qui sont sortis cette année, à la rentrée 2022, un livre qui est sorti qui s'appelle 50 jeux clés. Sous la direction de Dominique Arsenault, Kelly Boudreau et Bernard Perron, sur 50 jeux qui ont été choisis, qui ont plus ou moins été canonisés comme des jeux qui doivent être présentés, qui doivent être discutés pour parler de l'histoire du jeu vidéo. Ici, plus largement, je voudrais avoir votre avis sur, et pas spécifiquement que sur les jeux, mais sur l'ensemble des éléments qui constituent le jeu vidéo. Parce que, en fait, je voudrais revenir aussi sur le fait que dans la présentation que vous faites sur tous les documents qui sont sortis dans le cadre de Pixel Helvetica, donc dans le cadre du mémoire, vous mettez excessivement bien l'accent sur le fait que le jeu vidéo, c'est pas juste le jeu auquel on joue. Il y a la machine, il y a la manette, il y a toute la partie,
Les documents, le...
le document. Voilà, tout se situe là-dedans. Comment est-ce que, qu'est-ce qui fait que, une fois que vous avez préservé, je dirais, le maximum de choses, vous décidez, par exemple, de mettre plus en avant, je vous dis, parlons dans 25 ans, dans 30 ans, d'aller mettre plutôt Mundone, donc le jeu dont vous avez parlé, en avant, plutôt que n'importe quel autre jeu comme représentant du jeu vidéo suisse. En fait, qu'est-ce qui permet de, selon vous, de canoniser, de muséifier une œuvre? Aurore, je pense que c'est un peu ton domaine.
Oui. Ouais, justement, j'y réfléchissais parce que, en fait, l'historien du cinéma, Michel Lamy, a parlé de d'histoire panthéon au sujet du cinéma. Parce que, en fait, un des premiers processus, justement, pour légitimer le cinéma a été d'établir un panthéon d'œuvres impérissables, en fait, vues comme des grands classiques, surtout pas perdre, etc. Et en fait, elle montre aussi un peu les limites, dans un deuxième temps, de cette vision, où en fait, ça met de côté tout ce qui n'est pas, en fait, dans l'histoire panthéon, ce qui paraît moins intéressant, le film de famille, le film documentaire, toutes sortes de genres ou de types de films moins valorisés que, disons, le cinéma classique dominant. Et qui sont très intéressants au niveau de la production, des fois de la réception, de ce que ça peut dire sur la société à un moment donné. Donc, en fait, dans l'idéal, mais je sais que c'est très difficile à atteindre, il faudrait un peu tout préserver. Et c'est vrai que pour la valorisation, ça peut être intéressant d'établir des canons, mais en thématisant bien, en montrant bien que ça ne se limite pas à ça, en fait, que, et indiquer que c'était des canons, que c'est construit, que indiquer peut-être les critères. Par exemple, ce jeu a été tellement joué, alors forcément il entre là-dedans. Au contraire, c'est un jeu super étrange, super à la marge, que personne connaît, donc ça nous a paru très intéressant de le mettre en avant. Montrer un peu quels sont les critères de valorisation, en fait, et pas naturaliser ça, genre c'est évident.
Oui, en fait, je prends aussi un exemple que dans le livre que je trouve assez intéressant, c'est qu'il y avait beaucoup de jeux donc, qui ont un certain âge, je dirais, des jeux auxquels on n'avait pas du tout pensé. Donc, par exemple, il y a le puzzle game Bejeweled, pour ceux qui appréciaient pas trop mon accent anglais, qui a été vraiment un jeu
Oui.
fondamental auquel on n'avait pas trop pensé. Et moi, un truc qui m'avait marqué dans le bouquin, en plus, c'est un chapitre qui a été écrit par un de vos collègues, qui est Yannick Rochat, à propos de Fortnite, dans la
Oui.
mesure où là, on se retrouve face à un jeu qui se retrouve. Alors, je continue là, je dirais le parallélisme avec la canonisation d'un point de vue religieux, un peu sancto subito, puisque finalement, Fortnite, ça. Alors, je sais plus, 4-5 ans, pas plus, ou peut-être que je me trompe. Forcément, on voit bien tout de suite ce que Fortnite a apporté. Mais ça, est-ce qu'on peut le voir parce que on n'a pas déjà en amont suffisamment réfléchi à la question de la valorisation? Est-ce qu'il n'y a pas déjà des éléments qui nous font dire que finalement, un jeu clé, maintenant qu'on a au moins 50 ans de recul sur les jeux vidéo, on a une idée relativement précise de ce que ça peut être. Robin.
Je pense que c'est une question qui est très intéressante parce que c'est absolument à la mode en fait en ce moment. Et je sais pour en avoir parlé avec des gens qui s'intéressaient en fait aux politiques des musées. On sait que et voilà, il y a des musées qui ont des objets qui leur appartiennent pas toujours. On va dire si on regarde voilà certaines civilisations ont perdu beaucoup et l'Europe beaucoup servi, on va dire quelles que soient les conditions. Et on parle aussi beaucoup de la représentativité des collections et de manière générale, que ce soit les minorités, que ce soit certaines questions, que ce soit... Ça, c'est un vrai problème. Et en fait, la canonisation, évidemment, prend le risque de créer un biais et d'invisibiliser certaines créations. Alors forcément, c'est une démarche aussi pour améliorer la légitimité. Regardez l'impact de ce jeu, regardez l'impact de ceci. Moi, je pense que nous, évidemment, on doit... être relativement neutre, ou plutôt, je ne vais pas dire qu'on devrait être neutre, mais on doit être proactif. Par exemple, un élément important, beaucoup de gens dans l'association chez nous et beaucoup de gens qui font de la préservation des jeux vidéo vont avoir un biais linguistique, par exemple, en Suisse. C'est-à-dire que peut-être on va être principalement francophone. La Suisse est un pays majoritairement germanophone ou des dialectes de l'allemand. Ensuite, c'est la partie francophone, ensuite, il y a une partie italophone, et ensuite, il y a la partie romanche. Bah, par exemple, ce qu'on a pu constater, et c'est quelque chose aussi qui nous a été retourné un petit peu comme question, c'est est-ce que vous êtes sûr qu'on a identifié, vraiment bien identifié, les jeux qui proviennent de la région italophone? Parce que si on fait des statistiques, un petit peu en se disant, bah, voilà, il y a évidemment une partie... il y a un peu moins de monde, il y a peut-être aussi un accès aux outils qui est différent, c'est aussi quand même culturel, mais on a l'impression qu'il y en a beaucoup moins que ce qu'il devrait y en avoir. Donc, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un biais? Est-ce qu'on a manqué, en fait, d'aller trouver ces jeux-là? Est-ce que ces jeux-là, en fait, existent, mais ils n'ont jamais été identifiés? En fait, on les a simplifiés pour des jeux italiens, par exemple. C'est un gros problème, en fait, des jeux suisses, c'est que un jeu qui est en allemand n'est pas forcément un jeu. Ça peut être un jeu autrichien, ça peut être un jeu allemand, un jeu français peut être suisse ou allemand ou belge ou luxembourgeois ou même québécois. Donc là, il y a un problème, une problématique, et surtout dans le jeu vidéo. Alors ça, c'est plus général, mais le jeu vidéo n'a pas forcément eu une démarche de toujours utiliser sa langue habituelle. On voit que les Japonais ont beaucoup fait de jeux en anglais, les Américains évidemment, les Anglais aussi, mais beaucoup de gens qui ont conçu des jeux ont conçu des jeux en anglais. Du coup, comment retrouver la paternité de ces jeux-là. Donc là, il y a toujours ce problème, et ça, c'est un élément important dans l'exemple qu'on a pu montrer dans le rapport Pixel Vetica. On a trouvé un jeu, et ça, c'est intéressant parce que ce n'était pas forcément volontaire, mais ça va dans ce sens, en fait, d'enlever les biais. On a trouvé un jeu vidéo conçu par deux étudiants, donc qui étaient à l'EPFL, un des deux étudiants était à l'EPFL. Cet étudiant était tessinois. Donc tessinois, c'est la région italophone de la Suisse. Il était étudiant à Lausanne parce que malheureusement, le pays ne peut pas avoir des grandes universités dans toutes les régions. Donc, beaucoup de gens de la région italophone doivent aller dans d'autres régions linguistiques. Et en fait, il était grand fan de la plateforme Acorn Archimède, qui était cette plateforme donc, après les BBC Micro, etc. Donc, Acorn a fait un certain nombre de micro-ordinateurs. Qui n'est pas forcément une plateforme particulièrement populaire en Suisse. C'est-à-dire qu'en dehors de la Grande-Bretagne, c'est une plateforme qui est relativement qui s'est peu développée. Et étonnamment, il y avait une toute petite scène, Acorn Archimède en Suisse. Et donc, il s'est mis en contact avec un créateur, un graphiste, on va dire, qui travaillait à l'université de Bâle, enfin, qui était étudiant à l'université de Bâle, Basel, qui est juste à côté de la frontière à la fois allemande et française. Et ils ont créé un jeu ensemble qui s'appelle Aldebaran, qui est un jeu fortement inspiré de Elite, mais il y a plus derrière ça que simplement l'inspiration. Il y a aussi s'adapter à des contraintes peut-être différentes, choisir de raconter autre chose que le jeu Elite. Et donc là, la question c'est, est-ce qu'on a d'un côté Elite qui est devenu un monument pour certains du jeu vidéo, ou est-ce qu'il y a quelque chose derrière cette... ce qui pourrait être en illusion, peut-être trop forte inspiration. Et là, c'est compliqué. Il faut jouer le jeu, il faut avancer dans le jeu, il faut essayer d'analyser son gameplay, d'analyser le contexte au moment où il est sorti, pour se dire est-ce qu'il y a quelque chose de supplémentaire, que ce soit technique, que ce soit artistique, que ce soit narratif. Et là, ça, c'est des choses qui demandent peut-être un peu trop d'investissement pour le moment, on va dire, pour une structure comme la nôtre. De pouvoir vraiment décider ça. Par contre, ce qui serait l'erreur pour nous, c'est de ne pas le faire, c'est-à-dire de ne pas amener ce jeu sur la table et qu'il ne fasse pas partie de la discussion. C'est-à-dire, est-ce que demain, une institution qui veut exposer du jeu Bah, est-ce qu'elle veut dire, est-ce que j'expose Elite ou est-ce que j'expose Aldébaran? Et puis, ça, c'est assez intéressant parce que Aldébaran, bah, voilà, les deux concepteurs, donc aujourd'hui, les deux concepteurs n'habitent plus en Suisse, continuent d'être dans une industrie qui est assez proche du jeu vidéo, voire directement dans le jeu vidéo. Bah, voilà, la relation avec ces gens-là, elle est complètement différente des créateurs d'Elite. Aujourd'hui, si un musée suisse, musée national, veut exposer ce jeu-là, on aura une relation qui sera relativement différente qu'avec les concepteurs de Elite, qui sont britanniques, je crois. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, parce que là, on se dit, OK, est-ce que si j'expose Elite, finalement, est-ce que je ne fais pas un biais? Mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus exposer parce que c'est suisse, et il faut se dire, est-ce qu'il y a une vraie valeur ajoutée? Et là, la canonisation, elle peut être selon certains critères. Donc dans l'histoire du jeu vidéo, bah, il y a une canonisation qui est l'évolution du médium, donc dans sa narration, dans sa technique, dans sa Fortnite. On peut reprocher beaucoup de choses à Fortnite, mais ça a révolutionné l'industrie du jeu vidéo et ça continue de le révolutionner parce que c'est une sorte de métaverse un petit peu déguisé. Il y a des gens qui font des concerts, il y a des choses comme ça, il y a des avant-premières de films, c'est une plateforme de communication autant qu'un jeu vidéo. Mais ça c'est voilà, ça il faut du recul et ce recul-là, cette analyse-là. Nous, on ne peut pas l'avoir. Par contre, il faut qu'on puisse donner le plus de cartes possible à ces gens-là. Et c'est aussi le danger, c'est que, et ça, on le sait, il y a des pays qui ont inventé le jeu vidéo. Il y a des sociétés qu'on dit qu'elles ont inventé le jeu vidéo. Et ça, c'est le danger. Le biais, c'est que Nintendo a tout inventé, que les Japonais ont tout fait, que les Américains ont tout fait. Et on sait que ce n'est pas vrai. On sait que les Français ont fait beaucoup de choses aussi. Et il y a des créateurs en dehors de la France qui ont été inspirés par des jeux français. Donc, c'est assez intéressant. Finalement, de se poser cette grande question, est-ce qu'il y a eu des jeux importants? Et on sait qu'il y a eu des jeux importants pour certains créateurs français aussi, enfin français, qui sont dans l'industrie française aujourd'hui, mais qui ont pu passer par la Suisse ou jouer à des jeux suisses. Et je suis sûr que Farming Simulator a probablement donné des inspirations à certains concepteurs de jeux qui se sont peut-être lancés dans un Powerwash Simulator parce qu'ils avaient joué à Farming Simulator il y a 10 ans. Qui sait? On ne sait pas. Après ça, il faut aller le chercher.
Impossible.
Il faut aller le chercher. Mais nous, on ne peut pas attendre que ces choses-là remontent. Il faut les prendre, faut prendre quand ça vient et faire au mieux. Et nous, on peut pas, on doit minimiser ces biais-là et on doit justement être actif de pas écarter en fait des créations et surtout de se rendre compte si on a un biais. Ça, c'est quelque chose qui est très dangereux et ça, c'est quelque chose que maintenant beaucoup d'institutions commencent à prendre conscience. C'est est-ce qu'on a fait un biais? Alors, il y a des biais volontaires. Si on n'a que des jeux suisses, bon, c'est volontaire, c'est une stratégie. Mais si dans les jeux suisses, on écarte certaines plateformes, on oublie certaines régions, on oublie certains types de créations, bah, on parlait des jeux flash. Pour nous, les jeux flash, ou un autre élément qui est intéressant, par exemple, c'est les jeux sérieux. Là, par exemple, il y a une grande mode en ce moment, les grandes marques suisses de supermarchés font des jeux qui ont toutes les mécaniques qui puissent être, on va dire, relativement contestable, mais ces jeux-là sont hyper importants parce que c'est des jeux, c'est des démarches de jeux promotionnels, mais qui sont aussi des jeux sérieux, qui essayent de faire passer certains messages, peut-être même des fois des messages politiques en dessous, ou en tout cas en lien avec la consommation. Bah, ces jeux-là ont autant leur place que Farming Simulator. Et
Migros fait des jeux.
Migros fait des jeux, et alors Migros Merge, va voir Migros Merge, c'est très premier degré. Il y a le fondateur de Migros qui te regarde droit dans les yeux, qui te fait un peu peur et puis qui t'explique pourquoi ils ne vendent pas d'alcool dans les supermarchés Migros, etc., etc. Donc, ça, c'est quelque chose, ça a plus de valeur pour moi et ça a peut-être plus de fragilité qu'un Farming Simulator. Parce que Farming Simulator, il y a peu d'exemplaires, il n'y a rien qui sort aujourd'hui de Farming Simulator qui n'est pas disponible en dehors dans le monde et il y a des gens qui vont, ça va se retrouver dans des collections. Migros Merge, il n'y a pas quelqu'un en Japon qui dit, tiens, je vais préserver Migros Merge. Peut-être, mais il y a certainement moins de démarches. Il y a des gens qui collectent tout ce qu'il y a sur les stores, donc peut-être que ça va se retrouver dans des grosses collections. Mais ce que je veux dire, c'est que la démarche, là, elle est de se dire, est-ce qu'il n'y a pas vraiment quelque chose à faire? Et surtout, là, c'est compliqué, parce qu'en plus, potentiellement, on peut aller dans leur sens, en légitimant, en disant, ah, bah oui, on a pris votre jeu, on en a fait une archive. Ouais, bon, évidemment, pour eux, ça peut être même un objet de communication encore supplémentaire. De dire, ben, vous voyez ce qu'on fait, ça, c'est la culture, etc. Alors après, les gens qui ont fait un petit peu, qui sont venus un petit peu en Suisse, savent que Coop et Migros sont des énormes entreprises qui possèdent énormément de choses et qui beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises en Suisse font finalement partie de ces deux groupes-là. Et donc, c'est hyper important, en fait. Aussi important de documenter ça que de documenter peut-être des, je sais pas, des streams caritatifs faits par des associations suisses. Ça ne veut pas dire qu'on va récupérer toutes les vidéos des 24 heures de stream, mais c'est déjà peut-être de le documenter, de dire il y a eu un stream caritatif, voici les deux, trois articles de presse qui y sont liés. Donc, rien que faire la revue de presse de tout ça, c'est déjà énorme et ça donne déjà un contexte énorme et ça permet, le jour où quelqu'un veut se pencher dessus, déjà d'avoir un début de piste, quoi. Et après, la suite de la piste, bah, c'est le travail des chercheurs académiques de creuser ça. Et nous, on ne pourra pas forcément faire tout ça. Et il y aura des choses qui pourront aller chercher dans d'autres structures, qui pourront aller dans les archives de la télévision, de la radio, de la presse aussi. Mais s'ils ont déjà une première piste pour pouvoir démarrer tout ça, c'est le rôle qu'on veut jouer. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire toute la démarche, mais on pourra au moins être là pour l'étincelle, on va dire.
Très bien. Eh bien, écoute, je trouve que ça fait... Voilà, on pourra être là pour l'étincelle. Mais écoute, je trouve que ça fait vraiment une belle punchline pour finir sur donc ce temps que vous nous avez gentiment accordé pour parler donc de la svga.ch. Est-ce que les uns et les autres, vous aviez une dernière chose à rajouter dont on n'aurait pas parlé et qui vous semblerait particulièrement importante avant que nous nous disions au revoir? Ou est-ce que vous pensez qu'on a à peu près fait le tour de l'ensemble des sujets que vous vouliez absolument présenter pour votre initiative?
Je crois qu'on est bon.
Merci.
Okay. Ah, parfait.
Eh bien, écoutez, ça a été un véritable plaisir parce que on voit à la fois, ben, je dirais, dans quelle mesure vous vous inscrivez dans un mouvement beaucoup plus large, international, de préservation du jeu vidéo et dans quelle mesure aussi vous êtes relativement spécifique, outre le fait d'être suisse, avec, je dirais, vraiment le fait que déjà vous êtes relativement petit pour le moment. Et aussi le fait que vous souhaitiez spécifiquement travailler sur le jeu vidéo et être vraiment ces porteurs de l'étincelle pour les travaux à venir. On va aussi remercier toutes les personnes qui étaient sur le chat. Donc on va vous remercier Aurore, Joël et Robin d'avoir été avec nous finalement jusqu'à si tard, parce que ça fait un
moment. Oui, merci beaucoup.
Merci beaucoup. Et puis, on va... Alors ça, je vais laisser à la technique de faire ça, parce que moi, je ne sais pas comment on fait, mais on va faire un raid. Voilà, on fait un raid chez Arnaud Otaku. Merci Georges pour la partie technique aussi, qui a été impeccable de bout en bout.
Merci à tout le monde.